Alors, je vous le rappelle, c'était les chapitres 6, 7, 8. C'était Nil 5. Ce sont des chapitres du livre de Josué qui sont très, très, très riches. Ça a été compliqué de gérer la richesse de ces chapitres dans un message qu'on essaie de faire court. Alors, je voudrais commencer par... parce que je sais qu'il y en a pas mal qui ne les ont pas lus de toute façon, donc je vais vous faire un petit rappel. Ce sera une bonne chose. Je ne sais plus trop. Oui. Si, on peut le faire, oui. Au chapitre 6 du livre de Josué, c'est en fait la prise de Jéricho. On a déjà un peu tourné autour, c'est le cas de le dire, depuis le chapitre 2 dans lequel j'avais partagé déjà. Et Jéricho, c'est une ville qui est vraiment barricadée, entouré d'une énorme muraille imprenable. Et Dieu demande aux hommes de guerre, par l'entremise de Josué, de faire le tour de la ville une fois par jour, pendant 6 jours. Ils sont accompagnés pour ça par des sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, symbole de la présence de Dieu, donc. Et puis d'autres sacrificateurs qui sonnent du shofar, la trompette, la corne de bélier. Et le 7e jour... J'ai vérifié tout à l'heure dans l'hébreu, 7e jour, c'est le même terme qui est employé dans Genèse 2 pour décrire le 7e jour qui va être le jour du Shabbat. Le 7e jour, ils font 7 fois le tour de la ville de la même façon, accompagnés du peuple cette fois-ci. Et au signal donné par Josué, tout le monde se mit à pousser de très grands cris. Et la muraille s'écroule. Sauf la maison de Rahab, dont on avait déjà parlé donc au chapitre 2. Maison dans laquelle se trouve Rahab et toute sa famille. La ville de Jéricho est alors dévouée par interdit. C'est-à-dire que tous les habitants, tous les animaux sont massacrés. Je vous rappelle qu'Israël est à ce moment-là une forme, on peut dire, du bras du jument de Dieu sur ses peuples cananéens. De même, tous les métaux, les objets précieux de la ville, doivent entrer dans le trésor consacré à l'Éternel, sans doute pour servir plus tard à la construction du temple à Jérusalem. Les 2 espions qui avaient été envoyés par Josué auprès de Rahab, sont de nouveau envoyés par Josué auprès de Rahab et de sa famille pour les sortir de leur maison et de la maison et pour les faire entrer dans le peuple. Et toute cette famille, notamment Rahab, et on connaît l'histoire de l'Arabe et de sa descendance, et dans laquelle on a la lignée du Messie, va se joindre au peuple d'Israël. On passe au chapitre 7. Josué envoie des espions vers la ville suivante, vers Haï, qui semble une ville très facile à prendre. Et les espions, d'ailleurs, qui sont envoyés, conseillent à Josué de ne prendre que 2 ou 3 000 hommes seulement pour la conquérir. Ça va passer tout seul. Sauf que la bataille est un échec complet. Les soldats hébreux doivent fuir devant les habitants de Haï et le peuple est consterné et découragé. Josué va donc consulter l'Éternel sur la raison de cet échec. Et Dieu va lui dire qu'en fait, lors de la conquête de Jéricho, certains hommes ont bravé l'interdit et ont caché dans leurs bagages des objets précieux qui venaient de Jéricho. Alors Dieu va donner à Josué une méthode pour identifier les coupables. Le lendemain matin, tout le peuple s'approche de l'Éternel. C'est la tribu de Juda qui est désignée. Josué fait approcher les familles de la tribu de Juda et c'est la famille de Zérar qui est désignée. Il fait approcher la famille de Zérar et c'est le foyer de Zabdi qui est désigné. Puis ensuite, il fait approcher les hommes de la famille de Zabdi et c'est Akan qui est désigné. Et Akan qui va avouer avoir transgressé l'interdit. On trouve effectivement les objets volés dans sa tente et il sera lapidé, lui et sa famille, afin d'extirper l'interdit d'Israël. Ainsi, la bénédiction de Dieu revient sur Israël. Et on passe au chapitre 8. Dieu donne ensuite donc à Josué la stratégie valable pour conquérir la ville d'Haï. Cette fois, ce n'est pas en tournant autour de la ville, mais c'est en organisant une stratégie de front et de revers. La ville est battue, dévouée par interdit. Josué bâtit alors là, sur le mont Ébal, un autel à l'Éternel selon les ordres donnés de son vivant par Moïse. Les sacrificateurs offrent des holocaustes à Dieu et Josué grave sur les pierres de l'autel une copie de la Torah, la loi de l'Éternel. Ensuite, les Hébreux se répartissent en deux, toujours sur les consignes de Moïse. La moitié du peuple reste sur le mont Ébal, l'autre moitié sur le mont Garizim. Et Josué lit les paroles de la Torah, d'un côté les bénédictions, de l'autre côté les malédictions, qui sont écrites pour le peuple dans la loi de l'Éternel. Et le chapitre se termine en disant « Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lise en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants, et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. » Je vous propose qu'on lise dans le livre de Josué, au chapitre 8, quelques versets. Chapitre 8 au verset 30. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel de pierre brute, sur lequel on ne porta point le fer. Il offrit sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers, ses juges, se tenaient des deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs, les Lévites, qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Les étrangers, comme les enfants d'Israël, étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lise en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes, des enfants, des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Amen. Alors comme je disais, ces trois chapitres, c'est hyper riche en fait. On pourrait prendre un petit passage et en faire tout un message. Donc, alors ça n'a pas été mon choix. J'ai pas choisi d'extraire des trois chapitres un petit bout et puis de prêcher parce que j'avais l'impression que justement, on passe à côté du fait de voir la globalité de ces trois chapitres. C'est le but quand on fait un livre, de voir une espèce de globalité, de comprendre tout le sens. Donc mon choix s'est porté sur le fait de prendre un petit peu de hauteur, j'allais dire, sur ces trois chapitres et puis de regarder ce qui se passe. Et j'ai choisi donc deux directions dans lesquelles partager. La première que je vais vous partager, c'est celle du questionnement que suscite ce qu'on commence à voir dans ces trois chapitres du livre de Josué, c'est-à-dire la guerre. La guerre avec ce qu'elle est. Alors quand on lit une guerre qui s'est passé il y a 3200 ans, à peu près 3300 ans, Josué. Voilà, c'est dans les livres, c'est le passé, c'est tout ça. On est dans une période où on a des images qui nous montrent ce que c'est que la guerre. À ce moment-là, ces deux villes, Jéricho et Haï, à ce moment-là, les villes, en fait, sont des villes-États, des villes-nations. C'est-à-dire que c'est une ville qui, avec tous ses habitants, qui est dirigée par un roi et qui domine une région. Et ces deux villes vont être conquises et vouées à l'interdit. L'interdit, c'est-à-dire qu'on détruit tout, y compris les habitants. C'est affreux. C'est affreux. J'ai déjà parlé de cela lorsque j'ai prêché sur le chapitre 2. J'ai dit combien il faut se garder de tout anachronisme. Le monde a changé, l'humanité a changé, et on ne peut pas transposer des situations de l'époque à l'époque actuelle. J'avais aussi dit que l'Écriture nous explique la patience de Dieu envers les nations cananéennes. et que c'est seulement lorsque la patience de Dieu est arrivée à son terme qu'Israël a été libéré d'Égypte où il était en esclavage et qu'il est devenu en quelque sorte donc le bras de la justice de Dieu envers ces nations-là. De la même façon que la Syrie et la Babylonie, plus tard, seront les instruments du jugement de Dieu sur Israël à deux périodes de son existence. Mais l'explication que je donne, elle peut aussi susciter un questionnement sur Dieu lui-même, quand on voit ses ravages. Certains, dans l'histoire du christianisme, ont voulu opposer le Dieu de l'Ancien Testament, méchant, à celui du Nouveau Testament, devenu gentil. De façon heureuse, la doctrine de ces gens a été condamnée par l'Église. Non, Dieu n'a pas changé. Dieu est le même dans la première et dans la nouvelle alliance. L'Écriture va nous dire qu'il n'y a en lui, en Dieu, ni changement, ni ombre de variation. Mais que se passe-t-il dans ce livre de Josué ? Nous sommes à un moment où le peuple d'Israël est en train de se former en tant que nation. Ça a commencé avec Moïse. Avant, c'était des familles en Égypte, mais le peuple prend vraiment naissance en sortant d'Égypte, en entrant dans le territoire promis. Et donc, nous sommes à un moment où il entre dans son héritage. C'est à ce moment-là que des jugements radicaux s'abattent. J'ai sauté ma ligne. Et s'abattent donc sur les nations cananéennes idolâtres. De la même façon, il existe un parallèle dans le Nouveau Testament. Au moment où l'Église est en train de se former et où elle commence elle aussi à entrer dans son héritage, un jugement radical va s'abattre sur Ananias et Saphira, qui ont simplement menti au Saint-Esprit. Ils ont dit qu'ils avaient donné telle somme alors qu'en fait, ils en avaient gardé un peu pour eux. C'est radical, non ? Ils tombent raides morts aux pieds des apôtres, comme les murs de Jéricho sont tombés aux pieds d'Israël. C'est dans Acte 5. Un petit peu plus loin, en Acte 12, on voit Hérode, persécuteur de l'Église, frappé par un ange et expiré, il nous est dit, rongé par des vers. Dans ces parallèles, il y a juste une différence de dimension, mais pas de nature. C'est radical et c'est terrible. Bien sûr, il y a un autre jugement au moment de la naissance de l'Église, pour le moment de la naissance de l'Église, qui est tombé. Un jugement radical aussi, qui est tombé sur le Fils de Dieu. La croix, quelle horreur, quelle horreur. Donc dans ces parallèles, il y a juste une différence de dimension, mais pas de nature. Gardons-nous donc d'entrer dans une forme de dénigrement du Dieu présenté dans l'Ancien Testament au profit de celui présenté dans le Nouveau. Dieu est le même, seule la période du temps de l'Alliance a évolué avec la venue du Messie, Jésus. Pour finir sur ce point, je voudrais quand même nuancer ce que j'ai dit il y a quelques minutes sur le fait que le monde avait changé. C'est vrai qu'il a changé, notamment grâce à l'influence pendant des siècles du judéo-christianisme et de l'un de ses fruits sécularisés, l'humanisme. Mais hier, en regardant quelques minutes à la télévision les commémorations du 11 novembre, il y a des commentaires d'un général qui m'ont éclairé sur le fait que finalement le monde n'a pas tellement changé non plus. C'est une citation donc de ce général un peu hors contexte que je vais donner, mais voilà ce qu'il disait. Il disait « La France s'est construite sur les champs de bataille ». C'est vrai que c'est intéressant de remarquer ça, et on en parlait, je ne sais plus, c'est vendredi, je crois, avec Henri de l'Alsace, la Lorraine. Enfin, la France s'est construite sur les champs de bataille. Toute naissance amène des douleurs d'enfantement. Il disait aussi de toute façon que, en général, les nations se sont construites sur la guerre, rarement par la diplomatie. Puis un autre commentateur disait « La diplomatie sans les armes, c'est comme un concert sans les instruments. » Ça ne fonctionne pas. et tous de conclure sur le plateau de télévision pour vivre en paix, vivons armés. Fin de citation. Alors vous réagissez, vous souriez, mais c'est la réalité du monde. C'est la réalité du monde. Donnez-moi une seule nation qui s'est construite par la diplomatie. Si vous en trouvez une. J'ai trouvé que ces phrases avaient un relief particulier alors que je méditais sur le livre de Josué en même temps. J'avais tous ces passages en tête. Mais aussi dans la période que vivent nos sociétés, en ces temps de nouveau troublés. On a cru pendant 70 ans que ça y est, on était en paix, que tout allait bien, qu'on avait réussi. La réalité nous revient souvent en pleine figure. Alors on peut le déplorer, et personnellement je le déplore, et je suis sûr que vous aussi. Mais je crois que la Bible nous dit que malheureusement, ce sera le cas jusqu'à ce que le Messie Jésus revienne, le fils de David, qui établira son règne sur la terre. Donc comme quoi la Bible, c'est, certains disaient, c'est un peu comme le journal, hein, comme le Midi Libre d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des correspondances et c'est vrai que nous sommes une seule humanité. C'était le premier point que je voulais partager. Le deuxième point sur lequel je voudrais développer peut-être un peu plus et puis insister un peu plus et que la louange de ce matin a bien préparé. Parce que c'est rare maintenant qu'on danse, qu'on fasse le tour comme ça. Ce matin, je ne sais pas vous, je sais pas si c'est parce que j'étais devant et que j'avais toute votre onction avec vos chants qui venaient sur moi, mais j'ai senti une onction vraiment particulière ce matin, une onction de joie, une onction forte, présence de Dieu forte. Chant en langue, etc. C'est pas tout le temps. Hein. Et donc, c'est en lien un peu avec ce que je vais partager, comme souvent le Saint-Esprit agit de façon un peu unitaire dans le culte. Et donc, en me focalisant sur ces trois chapitres de Josué et en prenant un petit peu de hauteur, j'ai été très étonné de voir le niveau spirituel incroyable de cette génération de Josué. Au milieu de la guerre, de choses horribles, il y a un niveau spirituel incroyable. D'ailleurs, je pense que le peuple juif n'en a pas été inconscient de ça, ou plutôt, je vais le dire de façon positive, il en a été conscient. Parce qu'il y a une différence entre nos Bibles chrétiennes et les Bibles juives. Alors, pas dans le texte, même si les traductions sont différentes, mais dans la table des matières. C'est assez intéressant de voir. Dans les Bibles chrétiennes, le livre de Josué est classé dans les livres historiques. Je vous ai mis là un tableau, deux colonnes, avec à gauche la liste, enfin comme sont classés les livres bibliques, et puis à droite, comment ils le sont dans les Bibles juives. Dans les Bibles chrétiennes, ben, on a en premier le livre de la loi, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ça c'est la même chose dans les Bibles juives avec la Torah. Puis ensuite, dans les Bibles chrétiennes, on a les livres historiques avec Josué, Juge, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Roi, 1 de Chronique, Esdras, Néhémie, Esther, etc. Puis on a dans les Bibles chrétiennes les livres poétiques et de sagesse, Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique. Et enfin, les livres prophétiques qui vont de Ésaïe, Jérémie, Lamentation, etc. En allant jusqu'à Zacharie et Malachie. Dans les Bibles juives, donc il y a la Torah en premier, il y a trois grandes parties seulement, Torah, prophète et les hagiographes, c'est-à-dire les écrits. Et Josué, je vous ai marqué ça en rouge, justement, Josué n'est pas dans les livres, dans des livres qui seraient des livres historiques, mais des livres prophétiques. Il est classé comme un livre prophétique. Et je trouve que ça correspond vraiment à l'ambiance, mis à part la réalité des faits historiques qui sont réels, à l'ambiance spirituelle de ce livre. Je voudrais vous faire une petite revue de ce qui se passe dans nos trois chapitres, dans la dimension spirituelle. Josué a une oreille spirituelle tellement fine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Josué passait tout son temps avec Moïse, du temps de Moïse. Il entrait, quand Moïse entrait dans le tabernacle, Josué entrait avec lui. Quand Moïse sortait du tabernacle, Josué restait dans le tabernacle pour profiter à fond de la présence de Dieu. Quand Moïse est monté sur la montagne pour recevoir les tables de la loi qui avaient le feu et tout ça, là, Josué était avec lui. Josué avait un sens de la présence de Dieu tellement fort, tellement fort. Et donc, il avait une oreille spirituelle tellement fine qu'il va recevoir la stratégie exacte et humainement complètement farfelue qui va lui donner la victoire à Jéricho. Quel stratège fait ce que Josué a fait à Jéricho ? Tourner 6 fois, puis 7 fois le 7e jour, etc. J'allais dire ridicule. Mais c'était la stratégie de Dieu. Il fallait, j'allais dire, une sacrée oreille spirituelle pour non seulement recevoir ça de Dieu, mais pour engager un peuple de, je ne sais plus combien ils sont là à cette période-là, mais dans une bataille comme ça. Les espions qui étaient allés chez Rahab l'avaient quittée en lui disant qu'elle mette à sa fenêtre un chiffon rouge et qu'ainsi, elle et sa maison échapperaient à la destruction. D'où ont-ils reçu cette technique complètement loufoque pour éviter que la maison s'effondre ? Si ce n'est dans l'intimité avec Dieu, dans l'intuition avec Dieu. D'où ont-ils, et surtout, donc, quelle est cette force de conviction spirituelle qu'ils avaient pour préjuger et annoncer que si elle mettait ça et qu'elle restait dans sa maison, eh ben, Dieu allait la sauver, que Dieu allait accomplir leur parole. Là aussi, il fallait une sacrée dose d'écoute, de confiance et de connexion avec le ciel. On voit dans le chapitre 6 que Dieu va honorer la parole des espions. Toute la muraille de Jéricho va s'effondrer, sauf la maison de Rahab. Dieu avait entendu la parole prophétique des espions. Lorsque Jéricho est prise, Josué annonce prophétiquement que celui qui se lèvera dans l'avenir pour rebâtir la ville de Jéricho le fera au prix de la mort de son fils aîné et de son fils plus jeune. Et on voit des siècles après, dans 1 Roi 16, 34, que cela s'est accompli par un certain, sur la vie d'un certain nommé Hiel. Quelle dimension prophétique. Ensuite, il y a la défaite de Haï. Josué se repent, donc, parce qu'il a fait confiance à ses propres forces et cette fois-là, au départ, n'avait pas écouté Dieu. Mais là, il cherche la face de Dieu. C'est marqué que vraiment, il répand son cœur devant Dieu pour trouver la raison de cette défaite. Et alors que personne n'est au courant de l'affaire, Dieu va lui dire, mais c'est parce qu'il y a un voleur parmi vous. C'est parce qu'il y en a un qui n'a pas respecté l'interdit que j'avais donné. Et pour le chercher, parce que Dieu aurait pu dire, tiens, ben c'est un tel. Non, là encore, une écoute de Dieu. Dieu lui dit, il y a un problème, il y a quelqu'un. Seigneur, c'est qui ? Eh bien, voilà la technique. Tu vas rassembler tout Israël et je vais nommer quelle tribu ? C'est la tribu de Juda. Ensuite, tu vas prendre la tribu de Juda, tu vas prendre toutes les familles et je vais te dire, voilà, ben, c'est la famille de Zérah. Tout ça prophétiquement. Puis, au sein de la famille de Zérah, c'est la maison de Zabdi. Et au sein de la maison de Zabdi, c'est Akan qui va finir par avouer. Comment cette cascade de désignation s'est-elle produite ? Comment Josué a discerné étape après étape le chemin vers le coupable dans la relation avec Dieu ? C'est fou, hein ? Mettez-vous un peu en situation, vous êtes Josué. Quelle intimité avec Dieu ! Quelle relation avec Dieu ! Quel niveau spirituel ! Alors ce texte ne nous dit pas si c'était avec l'Ourim et le Toumim, vous savez, cette espèce de sort qui était lancé, c'est pas dit, Ou est-ce que c'était directement par prophétie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça réclamait une vraie intimité, une vraie confiance et une vraie écoute de Dieu. Après la défaite initiale à Haï, donc, et la nouvelle stratégie donnée par Dieu à Josué, Josué va finalement remporter la victoire avec cette fois une stratégie de type militaire, mais qu'il reçoit dans l'intimité avec Dieu. Dieu lui dit, tu vas faire partir une partie du peuple, tu les mettras derrière, puis vous, vous allez attaquer devant. Et puis quand ils vont sortir pour vous attaquer, vous allez fuir. Et puis une fois qu'ils fuient, quand je te le dirai, tu vas tourner ton javelot vers la ville, et à ce moment-là, les autres vont venir, et vous faites demi-tour. Et... Ouf, on a eu des belles prophéties ce matin. Mais alors, une précision comme ça, et une direction comme ça, waouh, Josué. Quelle oreille! Et nos trois chapitres se terminent par la mise en avant de l'importance, là, non plus tellement de la parole de l'esprit et de la prophétie, et de l'écoute et de l'intimité avec Dieu, mais de la parole de Dieu. Une fois que les deux grandes victoires sont remportées, Les Israélites vont vers la carte, hein, ils vont aller un peu plus loin. Donc vous voyez, il y a Jéricho, il y a Haï, il y a Jéricho, ils vont un peu plus loin, il y a Haï, et ils vont monter un peu plus loin au mont Ébal. Pourquoi ? Pour accomplir ce que Moïse avait écrit dans la loi, dans la Torah. Et donc les trois chapitres se terminent par la mise en avant de l'importance de la parole de Dieu. Josué écrit la loi sur les tables de pierre de l'autel. Alors, nous, écrire, j'allais dire, c'est facile maintenant, ou alors comme ça. Là, c'était gravé la Torah. Alors, je ne sais pas s'il a écrit toute la Torah, c'était quand même gros, mais puis toute la Torah n'était pas encore écrite de toute façon. Mais... tous les livres n'étaient pas encore complètement finalisés, c'est ce que je veux dire. Mais en tout cas, peut-être au moins les 10 commandements, ou j'en sais rien, mais gravés avec les pierres. Gravés avec les pierres, gravés sur les pierres, pourquoi ? Pour qu'en fait, ce soit gravé dans les cœurs. Pour que ce soit gravé dans les cœurs. Et puis, il proclame cette parole de Dieu depuis les monts Ébal et Garizim. Waouh ! Quel niveau spirituel avait cette génération ? L'explication de ça, elle n'est pas complètement mystérieuse. La Bible nous en parle. Dans le livre des Nombres, chapitre 11, verset 25, il est écrit « L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse, la présence de Dieu ». Quelqu'un a parlé de cette nuée tout à l'heure, je crois que c'est Henri, hein, tout à l'heure. Et Dieu prend de l'esprit qui est sur lui, sur Moïse, et il le met sur les 70. Ce qui est génial, c'est pas comme les gâteaux. Vous savez, un gâteau, vous coupez la part en quatre, le gâteau en quatre, vous le donnez, il n'y en a plus. Là, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Dieu prend de l'esprit qui est sur Moïse et il le transfère sur tous les anciens. Les 70 d'Israël. Et dès que l'Esprit repose sur eux, ils prophétisent. Donc, Moïse avait l'Esprit, Josué avait l'Esprit, les 70 ont l'Esprit. Nombre 27, 18. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Noun, homme en qui réside l'Esprit. » C'est joli ça comme phrase, comme expression. Et tu poseras ta main sur lui. Pas pour qu'il reçoive l'esprit, mais une deuxième onction, j'allais dire, sans doute, puisqu'il l'a déjà à l'esprit. Deutéronome 34, 9. Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Et c'est tellement fort, cette présence de Dieu, cette onction, cette importance d'être en connexion avec l'Esprit, avec Dieu, que Ésaïe, bien longtemps après Ésaïe, hein, Ésaïe c'est seulement 600 ans avant Jésus, donc on est bien loin de tout ça, mais Ésaïe au chapitre 63 de son livre va écrire « Alors, son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau ?» Le berger, c'était d'abord Moïse, puis Josué, etc. « Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint ?» Ésaïe, lui, prophète, qui lui aussi a l'onction, lui aussi est en connexion avec le ciel, lui-même dit, mais où il est celui qui mettait l'esprit au milieu d'eux? Alors je vais juste conclure mon message avec ces deux points très simples, mais qui me semblent sont importants et qui reflètent un petit peu le message de ces trois chapitres. D'abord, reconnaissons et adorons le Dieu unique, le Dieu d'Israël et le Dieu de l'Église, le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament, ce Dieu qui est le même, le Dieu immuable et invariable, qu'une ancestrale prière juive chantée décrit si bien. Alors je ne vous la chante pas, mais je vous la dis, c'est une prière qui est dite régulièrement à la synagogue. Adonai Malach, Adonai Melech, Adonai Imlor, Leolam Vaed. L'Éternel était roi, l'Éternel est roi, l'Éternel sera roi à toujours et à perpétuité. Amen. Et puis deuxièmement, honorons la mémoire des hommes de Dieu qui nous ont précédés. Alors de ce dont on a parlé là, mais de tellement d'autres aussi. Comme Josué, comme les espions, comme les anciens du peuple, comme toute cette génération que nous suivons semaine après semaine en étudiant le livre de Josué. Une génération loin d'être parfaite, on le verra dans d'autres chapitres à suivre, mais qui avait, j'allais dire, un sacré niveau spirituel et qui nous montre le chemin de la vie avec Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, l'étude, la connaissance et la transmission des Écritures, d'un côté, et l'intimité avec Dieu, l'écoute de sa voix, la dimension d'adoration prophétique de l'autre. Ces deux piliers qui doivent caractériser la vie de notre Église, de notre communauté en tant que peuple. Et alors, nous réussirons dans toutes nos voies. Amen. Merci Seigneur pour l'Écriture. Merci de pouvoir lire ta parole, de pouvoir être inspiré, émerveillé, surpris aussi, choqué parfois, parce qu'on y lit. Mais Seigneur, c'est ta parole et elle a quelque chose à nous dire pour aujourd'hui. C'est ta parole, elle est très ancienne, mais elle a une actualité incroyable pour aujourd'hui. Alors Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Je te prie de l'illuminer dans nos cœurs par ton esprit. Je te prie de la graver dans nos cœurs par ton esprit, afin que nous te connaissions mieux, afin que nous puissions mieux marcher avec toi, afin que nous puissions mieux la transmettre aux générations à venir que tu nous confies. Merci, notre Père, pour ton amour et ta bonté. Amen.